dans l'actualité des idées aujourd'hui. Quelle diplomatie en temps d'épidémie? On en parle avec notre invité, le diplomate Michel Duclos, ancien ambassadeur en Syrie et en Suisse, auteur de La longue nuit syrienne, paru l'an passé aux éditions de l'Observatoire. Il est aujourd'hui conseiller spécial de l'Institut Montaigne, auteur au début de l'été d'un dernier rapport, Un virus clarificateur, l'impact du Covid-19 sur la politique étrangère de la France. Bonjour à vous, Michel Duclos.
Bonjour.
Merci à vous d'être avec nous pour donner aussi le coup d'envoi de cette semaine internationale sur France Culture, puisque nous la conclurons avec l'IMA, l'Institut du Monde Arabe, ce week-end, avec un grand week-end spécial sur la situation au Liban. Quels effets l'épidémie de coronavirus a-t-elle eu sur la marche du monde pour vous, Michel Duclos, sur une première photographie? Est-ce que vous diriez que cette marche s'est inversée, s'est suspendue ou qu'elle a poursuivi sa course folle?
Je dirais plutôt qu'elle s'est accélérée. Et comme toute accélération, ça peut produire, ça va sans doute produire une transformation. Peut-être il faut quand même distinguer différents plans. Vous avez les points sur lesquels l'accélération est claire. C'est en particulier l'aggravation de la rivalité entre la Chine et les États-Unis, mais peut-être aussi entre la Chine et le reste du monde. C'est aussi cette tendance à une remise en cause de la globalisation qui existait auparavant et qui là également est accélérée, même si il ne faut pas en exagérer non plus le risque, mais ça c'est quand même présent. Et puis il y a des facteurs qui étaient inattendus quand même, qui ont fait éruption. Et pour nous Français, le principal, c'est cette espèce de sursaut de l'Europe, qu'il ne faut pas minimiser, qu'il ne faut pas exagérer, mais qu'il ne faut pas minimiser, et qui là a été un peu une sorte d'opportunité pour les Européens de s'apercevoir à quel point il est nécessaire de travailler entre eux. Puis j'évoquerai une troisième catégorie d'éléments qui est ce qui reste devant nous et ce qui reste largement inconnu. Car on ne se rendra pleinement compte de tous les effets de cette crise qu'au bout d'un certain moment, tellement ces effets sont dévastateurs sur le plan économique et sur le plan social, sur le plan des équilibres des rapports de force dans le monde, avec parmi ces inconnus, cet inconnu majeur qui est l'élection présidentielle américaine. Personne ne peut nier que l'autre game changer de l'année avec le Covid-19, c'est l'élection américaine.
Et ça peut fondamentalement changer la donne, je veux dire, entre une réélection de Donald Trump et l'arrivée d'un Joe Biden, ça peut changer du tout au tout la politique étrangère américaine?
Alors, je suis de ceux qui pensent que oui, sans minimiser naturellement les arguments contraires. Il y a toute une ligne d'analyse qui explique que de toute façon les États-Unis sont dans une phase de repli, ils sont dans une phase d'affaiblissement par rapport à la montée de concurrents de par le monde et notamment de la Chine. Ils traversent aussi, il ne faut pas se le cacher, une crise existentielle incroyable bien entendu. Et donc tout ça fait que on peut argumenter que Trump est le continuateur d'Obama et que le successeur de Trump sera aussi le continuateur de Trump. Mais tout en gardant à l'esprit effectivement cette tendance générale, il ne faut pas se dissimuler qu'il y a malgré tout des différences majeures entre Trump et Biden et que par ailleurs le style sera certainement très différent. Et pour nous Européens, Biden, c'est le retour dans l'accord de Paris sur le changement climatique. C'est le retour sur l'accord nucléaire avec l'Iran. C'est le retour dans l'Organisation mondiale de la santé. C'est un intérêt renouvelé à l'égard de l'OTAN et de l'Union européenne. Et plus généralement, un réengagement possible, je ne ferai de rien bien sûr, mais un réengagement possible des États-Unis dans les institutions internationales, ce serait quand même une différence majeure avec l'époque de Trump.
Oui, parce que pour l'instant, le multilatéralisme n'est pas vraiment en grande forme, en tout cas pas porté par cette administration Trump. La grande ligne, la grande tendance pour vous sur le bilan diplomatique de Donald Trump, quel serait-il pour vous?
C'est d'avoir démoli, c'est d'avoir achevé de déconstruire un certain nombre de piliers de l'ordre mondial qui avaient été construits par les Américains eux-mêmes après la Seconde Guerre mondiale et que Trump s'est attaché à détruire. Et ça, ce ne sera que partiellement réversible, d'autant plus que les Chinois, les Russes, pour d'autres raisons, eux-mêmes sont dans une phase de déconstruction de cet ordre qu'on a parfois appelé l'ordre libéral international, quelle que soit la formulation. On peut dire aussi que c'était pas un vrai ordre, que c'était un désordre, mais il y avait quand même un certain nombre d'institutions qui structuraient un tant soit peu les relations internationales.
Vous évoquez la Chine, vous évoquez la Russie. La Russie, on a tendance à penser que c'était le siècle d'avant. La Chine, celui-ci, en tout cas cette confrontation sino-américaine, est-ce qu'elle vous inquiète? Est-ce qu'elle pourrait devenir ou advenir mettre au jour une sorte de nouvelle guerre froide du XXIe siècle qui structurerait plus qu'on l'imagine aujourd'hui les relations internationales?
Alors, il y aura une polarisation. Ça paraît à peu près clair, une polarisation dominée notamment par cette rivalité sino-américaine. Beaucoup refusent de l'appeler guerre froide parce que il y a une interdépendance économique qui fait que c'est pas tout à fait comparable à ce qui se passait entre l'URSS et l'Amérique. Mais toute chose étant égale par ailleurs, on retrouve quand même cette concurrence qui est pas seulement militaire, qui pour l'instant n'est pas principalement militaire, mais qui est économique et idéologique. C'est-à-dire qu'il y a une vraie concurrence des modèles de société et des modèles de gouvernance. Il faut espérer que les facteurs de rapprochement économique et les facteurs aussi de défis communs, notamment le changement climatique, fournissent une sorte de garde-fou à la rivalité. Mais nier la rivalité, ça me paraît difficile. Pour dire les choses autrement, dans la guerre froide, les Américains et les Russes ont commencé à codifier leur compétition avec le contrôle des armements après la crise de Cuba. On peut espérer qu'entre la Chine et les États-Unis, on n'attende pas l'équivalent d'une crise de Cuba pour avoir ce type de dialogue codifiant la rivalité. Malheureusement, c'était plus facile d'une certaine façon de codifier un équilibre d'armement que aujourd'hui de codifier ce qu'on appelle parfois la guerre froide hybride, qui porte sur des questions technologiques, sur des questions de filières de production, sur des avantages ou des faiblesses économiques. Ça, c'est plus difficile de se mettre d'accord sur de nouvelles règles du jeu, sans compter naturellement le cyberespace, qui est un espace où on ne connaît ni les armes, ni les attaquants, ni les règles du jeu.
Et tout ça dans un moment très spécial, un moment de crise sanitaire mondiale, de pandémie. Il y a cette confrontation, polarisation Chine-États-Unis. Il y a ce regain de tension entre la Grèce et la Turquie, entre les États-Unis et l'Iran. Tout ça, ça accentue un sentiment d'insécurité ou d'instabilité générale. Est-ce que vous pensez que nous, le monde, enfin que toutes ces grandes puissances sont impuissantes à faire front ensemble pour répondre à cette épidémie?
Mon espoir, il faut quand même être optimiste bien sûr, c'est que ce n'est qu'un moment. C'est-à-dire que là, nous sommes dans un moment de rivalité intense, de compétition, donc d'insécurité. Il peut se produire que dans quelques années, Les grandes puissances ou les puissances qu'on appelle révisionnistes, celles qui sont attachées à la remise en cause de toute forme d'ordre ou de structure internationale, ces puissances se rendent compte que si elles poursuivent comme ça, ce sera au détriment de leurs intérêts. Et c'est notamment le cas en ce qui concerne les enjeux globaux, donc l'environnement, le changement climatique, les développements et la biodiversité. Et qu'à un moment donné, donc, ressurgira une sorte de raison diplomatique qui fera comprendre à ces acteurs de déstabilisateurs qu'il est préférable de revenir à une certaine organisation du monde, en tous les cas à une gestion par la coopération et les institutions internationales. Mais ce qui va être très difficile, c'est de traverser la période qui s'ouvre devant nous. Et c'est là où l'Union européenne, la France, les puissances comme l'Australie, le Japon, voire dans certaines conditions l'Inde, peuvent jouer un rôle modérateur. Et c'est ce rôle-là qu'il faut s'attacher à développer dans les prochaines années.
Pourquoi Washington durcit le ton contre Téhéran et demande l'application des sanctions économiques prévues dans l'accord de 2015? Avant de vous redonner la parole, Michel Duclos, je rappelle que vous êtes notre invité jusqu'à 13h30, ancien ambassadeur en Syrie, en Suisse et surtout aujourd'hui conseiller spécial de l'Institut Montaigne sur ces questions. On va écouter les mots de Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. Il était la semaine dernière l'invité virtuel à distance de nos confrères de France Inter.
Well, we believe that they...
Nous pensons que le changement que le président Trump a fait intervenir en ce qui concerne la République islamique d'Iran par rapport à l'administration précédente a été un très grand succès de plusieurs façons. Tout d'abord, ça a uni le monde autour de la compréhension du fait que l'Iran est le principal sponsor du terrorisme. Et puis, nous avons privé ce régime théocratique iranien et maintenant ils vont devoir prendre des décisions très importantes, très dures, pour savoir comment s'armer, pour savoir s'ils vont pouvoir soutenir les milices chiites en Irak ou continuer à soutenir le front du Yémen ou le Hezbollah au Liban et en Syrie. Ça a mis beaucoup de pression sur ce régime et nous espérons qu'un jour ce régime va conclure que c'est dans son intérêt de changer son comportement, de se conduire comme une nation normale et d'arrêter la construction de sa capacité nucléaire et de revenir dans le concert des nations sans utiliser le terrorisme pour arriver à ses buts stratégiques.
Bon, là, on est face, Michel Duclos, à une diplomatie dure. Washington qui accuse les Européens de ne pas lever le petit doigt sur l'Iran. Qu'est-ce qui se joue, là?
C'est très difficile à dire parce que les motivations des États-Unis dans l'affaire iranienne sont des motivations que certains diront irrationnelles ou en tous les cas historiques, culturelles, très profondes. Le président Obama a donc signé cet accord en 2015, qui est un accord pour limiter le programme nucléaire iranien et faire en sorte que la communauté internationale puisse inspecter ce que font les Iraniens sur ce terrain-là. C'était pas un accord parfait parce que les Iraniens ne renonçaient pas à toute espèce d'activité nucléaire, bien sûr. Donc, c'était un accord qui ne pouvait porter ses fruits qu'à la longue. Et aux États-Unis, cet accord n'a jamais bénéficié d'un consensus profond. C'est-à-dire que le président Obama lui-même avait renoncé à ce qu'il soit ratifié par le Congrès. Parce qu'il savait qu'au Congrès,
ça ne passerait pas.
Il y aurait des réticences, non seulement chez les Républicains, mais même chez une partie des démocrates. Trump a pris le parti de dire que c'était un mauvais accord, comme il n'a cessé de le répéter. Et donc, finalement, il a voulu à tout prix rétablir les sanctions, puis sortir les États-Unis de l'accord. Les Européens ne l'ont pas suivi, les Russes et les Chinois ne l'ont pas suivi, mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que ni les Européens, ni même les Russes et les Chinois n'ont pu contourner les sanctions américaines. Nous sommes dans un monde tellement globalisé que aucune grande entreprise aujourd'hui ne peut affronter le courroux du grand maître américain en matière financière et de dollars.
Et donc, on est dans cette l'ironie du sort aujourd'hui, c'est que cet accord, il était déjà imparfait, vous le dites. En tout cas, il ne fait pas l'unanimité, et que les États-Unis de Trump en sont sortis, en tout cas, ne se revendiquent pas de cet accord, sauf aujourd'hui pour durcir les sanctions ou rétablir des sanctions économiques.
La perception que nous avons, Européens, de la stratégie de Trump, c'est qu'il n'a fait qu'aggraver le problème, puisqu'il a donné aux Iraniens un prétexte pour alléger leur respect des obligations. Et donc, concrètement, ils ont recommencé à mener des activités d'enrichissement de l'uranium qui leur a été interdite par le traité. Mais évidemment, ils ont été assez habiles pour continuer à respecter un certain nombre d'obligations de l'accord, ce qui fait que nous-mêmes, on ne s'est pas retiré de l'accord. Et donc, Trump a affaibli sans doute le pays, l'Iran, économiquement, socialement, il n'a pas affaibli le régime. Au contraire, même. Ce sont l'aile dure du régime qui ont pris la main de plus en plus dans le gouvernement iranien. Et donc, le dernier épisode auquel on assiste, c'est quelque chose d'assez incroyable. C'est que c'est les Américains qui décident que l'ONU a rétabli les sanctions, alors même que le Conseil de sécurité dit qu'il ne peut pas suivre les Américains, puisque les Américains ne sont plus membres de l'accord, ne sont plus États membres, ne sont plus États partis de l'accord. C'est donc comme si, par exemple, la France disait « mais l'Union européenne a pris telle et telle position », alors même que l'Union européenne aurait refusé de suivre la France sur tel ou tel dossier. C'est une situation quand même un peu invraisemblable, de réalité parallèle de la part des États-Unis, qui, il faut le dire, correspondent sans doute davantage à une logique de politique intérieure qu'à une logique de politique internationale.
Voilà, et ce que vous dites, c'est que si les diplomaties européennes tiennent tête à Washington sur ce dossier, il n'est pas bien sûr de toute façon que les acteurs économiques, les entreprises présentes, françaises ou européennes présentes en Iran, elles, dans ce rapport de force, iront jusque-là.
Non, c'est-à-dire les entreprises françaises ou européennes ou d'autres pays se sont déjà retirées d'Iran, si vous voulez. Donc le sujet n'est pas là. Le sujet, c'est un rapport de force politique. Alors, beaucoup de gens disent, mais les Européens se sont couchés parce que les entreprises européennes se sont retirées. Je crois que c'est une mauvaise analyse. En fait, ce qui est important, c'est que sur le terrain politique, les États européens ont résisté aux États-Unis et ont contribué à l'isolement des États-Unis. Et ils ont permis de ce fait que l'Iran reste au moins largement, au moins dans une certaine mesure, dans l'accord nucléaire. Et pourquoi c'était important? Parce que s'il y a changement d'administration à Washington, une administration Biden pourrait encore aujourd'hui rejoindre le JCPOA si les Iraniens étaient partis, si les Européens étaient partis, s'il n'y avait plus d'accord nucléaire, cette option aurait été fermée à une éventuelle nouvelle administration américaine.
Allez, un dernier mot sur les Nations Unies, puisque vous les avez évoquées. L'Assemblée Générale s'ouvrira demain de manière virtuelle. Si affaune en ce moment cette grande organisation qu'est l'ONU, est-ce que vous pensez qu'elle a encore un rôle à jouer à l'avenir pour garantir la paix, ou est-ce qu'à 75 ans, elle est d'une autre époque, cette vieille dame?
Je reviens à mes propos antérieurs, ça dépend beaucoup des États-Unis, de la Chine, de l'Union européenne. Pour l'instant, si vous voulez, on est dans un monde sans règles, avec des structures internationales très faibles, parce que les Nations Unies n'avaient pour soutien que les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Europe. Aujourd'hui, trois de ces soutiens se retourne contre les Nations Unies. Donc les Nations Unies traversent une période, c'est vrai, extrêmement difficile.
Invité jusqu'à 13h30, le diplomate Michel Duclos, avec nous pour parler à la fois de la diplomatie internationale en temps d'épidémie. Puis on va maintenant, si vous le voulez bien, se concentrer un peu, se recentrer sur la France et l'action diplomatique française, et notamment au Liban. France Culture, il est 13h17.
France Culture, la grande table, Olivia Gesbert.
Venons-en à la France. Dans votre rapport, Michel Duclos, paru début juillet, vous analysez les marges de manœuvre de l'action française sur la scène diplomatique. Deux fois, Emmanuel Macron s'est rendu au Liban après l'explosion début août sur le port de Beyrouth. Soutien à un peuple ami, à un peuple meurtri ou soft ingérence, comme diraient certains.
Il y aura un avant et un après 4 août 2020. Parce que cette effroyable détonation a sonné comme un coup de tonnerre sur la pente du désespoir. Lorsque le Liban est frappé au cœur comme il l'est aujourd'hui, c'est aussi le cœur de la France qui est frappé.
Je sais votre détresse et je comprends votre colère. Je ne suis pas là pour cautionner quelque régime ou quelque politique que ce soit. Mais je suis là et c'est mon devoir pour vous aider en tant que peuple. Dites-leur que moi je suis venu aider ce matin et que je vais aller parler à toutes les forces politiques pour leur demander un nouveau pacte. Et je reviendrai pour le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous.
Je vous remercie, monsieur le président.
Bonjour, messieurs, dames. Je suis heureux de revenir comme je l'avais promis à Beyrouth. Ma position est toujours la même, c'est celle de l'exigence sans ingérence. Je suis là aujourd'hui. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi et je reviendrai pour le 1er septembre. J'ai vu qu'un processus s'était enclenché ces dernières heures qui a permis de faire émerger une figure en tant que Premier ministre. Il ne m'appartient aucunement ni de l'approuver ni de l'adouber. C'est la souveraineté libanaise qui est ici en jeu.
L'exigence sans ingérence, cette exigence allait rester lettre morte pour l'instant. Michel Duclos, toujours pas de gouvernement au Liban. Comment vous regardez l'intervention française au Liban, celle directement du président de la République, Emmanuel Macron ?
Alors d'abord, je la soutiens, parce que connaissant un peu le Liban, je crois que les Libanais eux-mêmes attendent cela de la France. Ceci dit, je suis obligé de constater que la ligne de partage entre l'ingérence et le soutien est difficile, naturellement. Et c'est clair que le président de la République, dans les passages que vous avez
sélectionnés,
est sur une corde raide, n'est-ce pas ? Il veut à la fois être à l'unisson de ses interlocuteurs libanais. Il se rend bien compte, bien sûr, qu'il n'est pas libanais. C'est une puissance. La France reste une puissance extérieure. Ce qui plaide pour le rôle que joue la France et Macron en l'occurrence, c'est que il est quand même le porte-parole, sinon de la communauté internationale, au moins de ce qu'on appelle les bailleurs de fonds, c'est-à-dire les pays qui s'intéressent en profondeur au Liban. Et la France joue ce rôle depuis un certain nombre d'années, hein, depuis au moins Jacques Chirac et sans doute avant Mitterrand, etc. Et là, il exprime pas seulement un pays ami du Liban, il exprime pas seulement la voix de l'ancienne puissance mandataire, il est le porte-parole d'une partie de la communauté internationale qui s'intéresse au Liban et qui dit aux Libanais, on ne peut vous aider que si vous nous aidez à vous aider, que sont la formule de Le Drian. Donc on ne peut apporter des crédits pour relancer votre économie que si vous consentez aux réformes économiques nécessaires. Et vous ne pouvez procéder à ces réformes économiques indispensables que si vous changez quand même un peu votre système de gouvernement.
Mais est-ce que la classe politique libanaise a vraiment envie d'être aidée ?
C'est non, aussi
la question. Est-ce qu'elle est prête à bouger et à évoluer ?
Oui, d'une visite à l'autre, d'ailleurs, le président a un tout petit peu modifié son langage, puisque il se rend bien compte qu'il est obligé, malheureusement, de travailler avec la classe politique libanaise. Et c'est clair que le retard pris par dans la formation du gouvernement, la personnalité même de Mustapha Adib, qui n'est pas vraiment un rénovateur du système, l'insistance mise par le Hezbollah sur l'obtention du ministère des Finances, tout ça montre bien qu'il y a des facteurs de viscosité dans le système libanais, dans la classe politique libanaise, qui tire le pays en arrière. Et en même temps, c'est notre rôle, c'est notre vocation, et je crois que c'est le style particulier de Macron, de quand même insister, d'essayer malgré tout d'obtenir le changement. Et là, probablement qu'il a raison.
Vous avez été ambassadeur en Syrie, Michel Duclos, pays voisin, frontalier du Liban. Quand on connaît la Syrie, on connaît aussi très bien la situation au Liban. Le Liban qui reste une aire de jeu pour toutes les puissances régionales. Qu'est-ce que vous pensez? Que ce pays sera une fois encore assez résilient pour s'en sortir, pour se relever? Vous avez dû entendre, comme nous tous, le cri de révolte et de contestation de la population qui avait commencé bien avant l'explosion qui a pu avoir lieu sur le port de Beyrouth et qui a à nouveau fragilisé une ville, une économie, une population. Est-ce que vous pensez que le pays va pouvoir se relever de cette énième crise?
Il ne faut pas abuser du mot résilience, bien sûr. Tous les peuples sont résilients, pas seulement les Libanais en particulier, bien sûr. Mais ma terreur, c'est est-ce que les forces vives vont rester au Liban?
Ça, c'est même pas de l'inquiétude, c'est de la terreur.
Ah oui, c'est de la terreur, parce que en Syrie, vous savez, le pays se vide progressivement des forces vives que le régime n'a pas tuées. C'est ça l'enjeu dans ce genre de pays. Le Liban n'en est pas là. Il y a pas de le Liban a gardé des libertés publiques. La parole est libre. Il y a certainement une forme de démocratie qui reste vivante. Mais aujourd'hui, 55% des gens sont en dessous du seuil de pauvreté et probablement 25% ou 22% en dessous du seuil d'extrême pauvreté. Et effectivement, il y a un désespoir dans la société civile, dans la rue, qui pour l'instant encore s'accroche à la possibilité d'un changement. Mais très vite, beaucoup de gens quittent le pays. C'est ça qui m'inquiète le plus, si vous voulez.
Voilà, deux conférences sont encore attendues en octobre. Deux nouvelles échéances sur cette intervention de la France au Liban, intervention diplomatique sans temps. Est-ce que vous voyez-vous un tournant dans la politique étrangère d'Emmanuel Macron ou au contraire, c'est le tournant dans la continuité de ce qui se faisait jusqu'ici par des prédécesseurs, à commencer par Jacques Chirac?
Le président Macron est dans le sillage de l'action traditionnelle de la France. Je serais même un peu provocant. Je crois que son histoire personnelle ne le portait pas particulièrement à s'intéresser au Liban. Ça n'a pas été une des priorités de ses premières années de mandat. Mais là, c'est un peu l'histoire qui appelle. Et ce sont les Libanais eux-mêmes qui demandent que la France s'investisse. Et au fond, il est dans une logique de noblesse oblige.
C'est l'histoire qui appelle et en même temps, vous appelez aussi la diplomatie française, la France, le président Macron, à se tourner plus vers l'Asie. Pourquoi?
Alors, c'est un grand dilemme parce que le Covid-19 nous a affaiblis, comme il a affaibli beaucoup de pays, hein. Il ne faut pas se le dissimuler. Il nous oblige certainement à nous recentrer dans l'œuvre de reconstruction du pays et pour cela à s'appuyer principalement sur l'Europe. C'est le sursaut européen qui peut être notre chance de sortir de cette crise sanitaire, sociale, économique terrible. Et en même temps, si l'Europe veut continuer à exister, si la France veut jouer son rôle, on est obligé de prendre le monde tel qu'il est et on est obligé d'affronter les nouveaux défis où ils se trouvent. Et ils se trouvent dans une grande mesure en Asie-Pacifique parce que c'est un décentrement de la puissance du monde auquel on assiste. C'était vrai avant, bien sûr, mais c'est devenu encore plus visible avec la crise du Covid-19. Et donc, je crois que oui, la France, la puissance française, l'Europe, doit s'investir plus qu'avant dans l'Indo-Pacifique. D'ailleurs, Macron, il faut lui rendre cette justice, l'avait compris déjà avant le Covid-19. Et c'était un des éléments du redéploiement de la politique française qu'il a souhaité, qu'il a encouragé. Alors, ayant dit tout cela, il est vrai qu'en même temps, le feu est à nos portes. Et donc, c'est notre environnement immédiat, que ce soit dans les Balkans ou en Biélorussie, que ce soit surtout de l'autre côté de la Méditerranée, c'est notre environnement immédiat qui est en flamme, selon une expression consacrée.
Et que ce soit encore la Syrie, parce qu'on n'en parle plus, on ne la regarde plus, la pandémie et peut-être l'usure a aussi détourné les regards de la situation en Syrie, où la guerre civile a commencé il y a bientôt 10 ans avec un mouvement de contestation contre le régime de Bachar el-Assad. Vous y étiez ambassadeur pour la France jusqu'en 2009. Une dernière question: comment rétablir des liens, reconstruire une diplomatie avec ce pays?
Alors d'abord, je crois qu'il ne faut pas rétablir des liens avec le régime d'Assad.
Continuer à l'isoler.
Il faut continuer à l'ignorer et à ne pas lui parler, parce que l'expérience a montré quand Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ont essayé le dialogue avec lui, ça n'a servi à rien. Donc aujourd'hui, que c'est devenu un régime de crime de masse, on ne va pas commencer à le légitimer. Je pense que en Syrie, il faut avoir une grande diplomatie humanitaire. Il faut avoir le plus possible la main tendue aux Russes ou à d'autres acteurs qui peuvent peser sur le destin de la Syrie. Mais il ne faut certainement pas s'impliquer avec le régime tel qu'il est.
Voilà, c'est le retour d'une diplomatie humanitaire, ou en tout cas une diplomatie humanitaire qu'il faut conforter à vos yeux. Michel Duclos, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je renvoie les auditeurs vers ce livre que vous avez signé aux éditions de l'Observatoire il y a un an, La longue nuit syrienne, paru donc l'an passé, où vous racontez votre expérience et votre analyse de la situation. Merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour La Grande Table Culture, à Jean Bulot, avec Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des Idées. À la réalisation aujourd'hui, c'était Thomas Beau avec Jacques Hubert. Un grand merci aussi à Madeleine Martineux et à Anouk Delfino pour leur aide très précieuse.